Bah, ce soir, le thème, c'est le combat spirituel et les armes du croyant pour vivre le combat spirituel. On ouvre ensemble dans Éphésiens 6, à partir du verset 10. On peut lire ensemble jusqu'au verset 19-20. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Remettez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin.
Alléluia.
Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. On peut dire amen dans la parole
amen.
De Dieu. Alléluia. Dans ce texte, l'apôtre Paul écrit à l'église d'Éphèse, et on sait pour nous qui lisons le Nouveau Testament que dans le Nouveau Testament, il y a deux églises particulièrement qui sont matures spirituellement, qui ont atteint un niveau de maturité spirituelle, c'est l'église d'Éphèse et c'est l'église de Colosse. Et quand vous lisez l'épître aux Colossiens et l'épître aux Éphésiens, il y a une similitude entre les deux épîtres. Par exemple, Paul va dire aux Colossiens et aux Éphésiens de se dépouiller du vieil homme, de revêtir l'homme nouveau, et toutes ces choses, on les retrouve dans ces deux épîtres. Et lorsque Paul écrit là, à l'église d'Éphèse, il se retrouve en prison à Rome, en 62 après Jésus-Christ. Et j'aimerais te dire une chose, mon frère, ma soeur, pour commencer. C'est alors qu'il est en prison, il est un instrument entre les mains de Dieu. Hein. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir qui peut-être se sent dans une situation difficile, compliquée comme en prison spirituellement parlant, là où tu es dans ta prison, tu peux être un instrument entre les mains du Seigneur.
Amen.
Tu peux être, alléluia. Vous savez, Joseph, il n'a pas attendu d'être auprès de Pharaon pour devenir un instrument entre les mains de Dieu. Il y a des croyants qui attendent d'être sur un piédestal pour commencer à manifester le royaume de Dieu. Mais Joseph, en prison, il interprétait les rêves, il interprétait les songes, et déjà là, il manifestait le royaume de Dieu. Tu as le droit de dire amen ce soir. Donc il écrit cette lettre-là, et il demande donc aux Éphésiens de se revêtir de toutes les armes de Dieu. Et il donne une liste d'armes spirituelles pour le combat spirituel. Et au verset 11, il va dire... Revêtez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du malin. Il ne dit pas revêtez simplement quelques armes ou revêtez les armes que tu as envie. Des fois, nous les croyants, on aime bien trier. Tiens, j'aime bien l'épée de l'esprit, j'aime bien le bouclier de la foi, j'aime bien la cuirasse, j'aime bien les chaussures. Pourquoi les autres armes ne m'intéressent pas trop? Non. Il dit ce soir revêtez toutes les armes de Dieu. Qui veut tenir ferme contre le malin ce soir? Alors revêt toutes les armes de Dieu. Ne cherche pas à trier, alléluia. Il y a des chrétiens qui trient dans la parole de Dieu comme s'ils prenaient une sardine, ils enlevaient les arêtes. Il n'y a pas d'arête dans les Écritures, dis-moi amen, hein.
Amen.
Tout ce qui est écrit, c'est bon ce soir.
Alléluia.
Et tu as besoin de prendre toutes les armes de Dieu, alléluia. Mais pour les prendre, il faut les connaître. Et pour les prendre, il faut comprendre comment elles fonctionnent et comprendre comment elles marchent. On va voir ça ensemble ce soir. Première chose, pourquoi prendre les armes de Dieu? Pourquoi Paul demande aux Éphésiens de prendre les armes de Dieu? La première chose, c'est que ce soir, notre combat n'est pas un combat charnel, mais c'est un combat qui est spirituel. Tu devrais dire amen à cela. Si c'était un combat charnel, on aurait besoin de prendre des armes charnelles, des chars, des tanks, des poings américains, des gazeuses. Non, ça c'était avant, Seigneur, c'était avant. Alléluia. Des couteaux, des kalachnikovs. Pour mener un combat charnel, mais je vous dis ça parce qu'il y a des chrétiens qui mènent le combat charnellement. Il y a des chrétiens qui ont encore des armes chez eux. Laisse tomber tout cela au nom de Jésus. Le combat que nous menons est un combat spirituel. Et parce qu'il est spirituel, il nous faut prendre des armes qui sont spirituelles ce soir. Et c'est la raison pour laquelle il demande de nous équiper de ces armes spirituelles. Et au verset 12, il donne la raison. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Moi, je ne suis pas sûr que les chrétiens ont toujours conscience de ce verset. Est-ce que tu sais ce soir que ton ennemi, celui contre qui tu combats, ce n'est pas ton mari, ce Eh les sœurs, c'est pas ta femme, mon frère. Ouh, c'est pas ton chien. C'est pas tes enfants, c'est pas ton patron, c'est pas ton collègue de travail. Mais le combat que tu mènes, c'est contre les puissances démoniaques. Il y a un monde invisible qui nous entoure. Et de la même manière que dans ce lieu, il y a des ondes et tu ne les vois pas, elles existent quand même. Il y a également des anges. La Bible, ils sont plus nombreux que les démons, mais il y a également des esprits méchants dans les lieux célestes. Et le combat que je mène journellement, au quotidien, c'est contre ce genre de puissance dans les lieux célestes. Est-ce que tu me suis ce soir? Vous savez, un jour j'étais au travail comme ça, et puis j'avais un collègue de travail, il était toujours méchant avec moi. Jamais il me respectait, jamais il m'aimait. D'ailleurs, quand il me voyait, il m'appelait toujours Jésus. Oh, il y a pire quand même, hein? Et puis, celui-là, vraiment, il y avait un truc qui passait pas. Et je voyais toute la journée, il se nourrissait de cochonneries, il se nourrissait de hard drugs, de choses diaboliques, de têtes de mort, etc. Et puis un jour, j'en ai vraiment eu marre, tellement il me persécutait, je pars aux toilettes. Et je vais prier dans les toilettes et au nom de Jésus, je lis, selon ce texte, les esprits méchants qui agissent derrière cet homme-là. J'ai rien contre l'homme, j'ai rien contre l'humain, j'ai rien contre la chair et le sang. J'aimerais même dire à quelqu'un ce soir, j'ai rien contre les islamiques, t'as le droit de dire amen. Hein. Mais mon combat, c'est contre les esprits qu'il y a derrière. Et alors que je prie, je sors des toilettes, il me dit, ça va, t'as prié Jésus, tu vas mieux? Je dis, mais comment il le sait? Et j'ai compris que ce qui était en lui, il le savait. Lui, il ne comprenait pas, mais ce qui était en lui, il le savait. J'ai commencé à prier, à me tenir devant lui, dire, Seigneur, je suis ton enfant dans ce lieu. Et au nom de Jésus, tous les jours, j'interdis à ces puissances de perturber mon travail. Au bout de quelques mois, ce n'est pas forcément une malédiction que j'ai lancée. J'ai prié, pas contre lui, mais contre les esprits. Il est parti en maladie pendant 6 mois. Il me restait 6 mois avant de rentrer dans le ministère. À plein temps dans cette boîte, j'ai fini mes 6 mois dans la paix et je suis rentré dans le ministère. Et quand je suis parti après, il est revenu. T'as le droit de dire amen ce soir. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appliqué un principe spirituel. J'ai pas lutté contre l'homme, mais j'ai lutté contre les puissances démoniaques qui agissaient derrière. T'as le droit de dire amen ce soir. On sait que l'église d'Éphèse, elle comprenait le combat spirituel. Quand vous lisez l'implantation de l'église d'Éphèse, vous lirez Acte 19. Vous verrez que quand Paul a implanté l'église d'Éphèse, il y avait déjà là une notion de combat spirituel. Par exemple, au verset 18 et au verset 19, il est dit que dans l'église d'Éphèse, certains avaient exercé les arts magiques, ils le confessaient devant Dieu. Et ils venaient au verset 19 brûler les livres. On estima ce qu'ils ont brûlé à la valeur de 50 000 pièces d'argent. Alléluia. Et quand Paul va opérer dans cette ville, déjà dans cette ville, il y a une compréhension du combat spirituel. Quand vous lisez les livres d'histoire, la ville d'Éphèse était la 3e ville de l'Empire romain et capitale de l'occultisme dans le bassin méditerranéen. Et je vois que là, au verset 11, vous lirez acte 19, Paul va vivre des miracles non pas ordinaires, mais des miracles extraordinaires, alléluia. Au point que les linges de Paul, que les possédés vont toucher, que les malades vont toucher, vont les libérer au moment où ils les touchaient. Alléluia. Est-ce que vous croyez à cette dimension et de vos oreilles? Les gens qui sont là, des fois, ils limitent la présence. Je ne limite jamais la présence de Dieu. Un jour, je dormais chez un homme comme ça, et puis je dormais chez lui, et puis je suis parti le lendemain. C'est pas pour me glorifier, mais c'est vraiment pour dire que la Bible est vraie. Et le lendemain, il y a un gars lié par des esprits impurs qui dort dans le même lit. Et le gars m'appelle, chez qui je dormais, il me dit, hey, j'ai accueilli un gars possédé. Il a dormi dans ton lit le matin ou la nuit, il s'est réveillé, il faisait que vomir, et Jésus l'a libéré. Alléluia. Vous savez, des fois, Dieu nous étonne. Dieu nous, il m'étonne à moi aussi, mais croyons que là où il y a confrontation de ténèbres, la puissance de la lumière est beaucoup plus grande ce soir. Et on a besoin de vivre ces choses. Dis à ton voisin, t'as besoin de vivre ces choses ce soir. T'as besoin de vivre ces choses, alléluia. Amen. T'as besoin de le vivre. Est-ce que l'église de Beausoleil est consciente de ces réalités spirituelles? Vous savez, c'est le pasteur Karam Berry qui dit qu'en Europe, le diable il est en costume cravate. Mais il est quand même là. Et on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances qui sont invisibles. Dis-moi amen ce soir.
Amen.
Deuxième but, verset 13. Il dit là, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Il y a deux choses encore dans lesquelles tu dois revêtir les armes de Dieu. La première, c'est dans le mauvais jour. Est-ce que tu sais que la Bible parle du mauvais jour? Elle parle du bon jour, mais elle parle du mauvais jour également. Et elle parle du mauvais jour pour les chrétiens, pour les païens, mais pour les bons chrétiens aussi. Et si tu es un bon chrétien, tu vas aussi connaître des mauvais jours. Soyez, vous êtes sauvés. Vous savez, dans Matthieu 7, quand Jésus montre les deux maisons, il montre celle qui est bâtie sur le sable, bâtie sur le roc. Il n'a pas dit que celle qui est bâtie sur le roc, la pluie ne tombe pas, les vents ne tombent pas. Mais il dit que les deux maisons vont être atteintes par la pluie et le vent. Mais la différence, c'est que celle qui est bâtie sur le roc va tenir debout. Hein. Et même si tu es un chrétien qui aime le Seigneur, tu vas connaître aussi des moments difficiles dans ta vie. Et dans ces moments-là, tu as besoin de revêtir les armes de Dieu. Il y a des saisons dans nos vies. Des fois, on est bien, on sent la présence de Dieu, tout va bien. Il y a des percées spirituelles dans nos vies. Et des fois, c'est compliqué. Tu te lèves le matin, tu n'es pas bien, tu ne sais pas pourquoi, tu n'as pas envie de prier. Tu n'as pas envie de venir à l'église. Tu n'as pas envie de témoigner. Tu n'as pas envie de lire la Bible. Ça vous arrive de vivre ça parfois ou pas? Mais il n'y a que moi?
Non.
Ah, ça me rassure, ça va. Et dans ces moments-là, qu'est-ce que tu fais? Tu prends les armes de Dieu, mon frère, ma soeur. Tu prends l'équipement spirituel. Tu ne te laisses pas aller, mais tu prends les armes de Dieu. Là. Tu tiens ferme dans le mauvais jour. Et après, il dit secondement, tenir ferme après avoir tout surmonté. Le lendemain de victoire, quand tu as pris des victoires spirituelles, quand tu sens que tu as atteint des sommets spirituels, continue à garder les armes du Seigneur. Il y a des chrétiens comme ça, lorsqu'ils vivent des victoires, ils se relâchent, tu ne les vois plus, ils ne prient plus, ils ne lisent plus la Bible, ils ne se sanctifient plus, ils ne prennent plus les armes, et ensuite tout ce qu'ils ont gagné, ils sont en train de le perdre. Mon frère, ma soeur, quand tu as pris une victoire, continue à revêtir toutes les armes de Dieu. Veille et prie tous les jours. On va dire amen. Veille et prie tous les jours. Vous savez, quand je prêche parfois et que je vis des choses belles avec le Seigneur, des victoires particulières dans le ministère, dans la prédication, dans l'enseignement, dans l'étude biblique, dans la prière pour les malades, à chaque fois que j'ai une victoire, je sais que derrière l'autre, il n'est pas loin. Ouais. Et je sais qu'il attend juste une chose, c'est que je me réjouisse de ma victoire et que je m'arrête un tout petit peu de travailler pour venir prendre ma vie et commencer à la piéger. Mon frère, ma soeur, quand tout va bien, prends les armes de Dieu. Quand tout va mal, prends aussi les armes.
Amen.
Dis à ton voisin, quand tout va bien, prends les armes. Quand tout va mal, prends les armes aussi. Prends les armes de Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un, t'es pas en vacances, amen. T'es pas en vacances ce soir, alléluia. On est dans le combat. Tous les jours de l'année, alléluia, tous les jours. On est dans le combat.
Tu
as le droit de dire amen ce soir. Alors, quelles sont les armes de Dieu? La première arme, il faut comprendre que lorsque Paul va écrire cette épître, il va écrire en prison à Rome et sûrement devant lui, il y avait un prisonnier romain. Et il va comparer les armes, non pas un prisonnier, un soldat romain, pardon. Il va comparer les armes du soldat romain et comparer également les armes du soldat chrétien. Et la première arme qu'il utilise, c'est la ceinture de la vérité. On sait que le soldat romain, il avait une ceinture autour de la taille pour tenir sa cuirasse et tenir également sa tunique. Parce que s'il partait au combat sans sa ceinture, le problème c'est que la tunique risquait de partir, la cuirasse risquait de partir, et dans ses mouvements, il aurait risqué d'être moins libre pour attaquer l'ennemi. Et il lui fallait une ceinture. Et quand vous regardez l'histoire, la ceinture qu'avaient les soldats romains, c'était une ceinture de cuir épaisse, large de 15 à 20 cm, doublé de plaques de laiton. Ce n'est pas une petite ceinture. Cela te montre que la ceinture de la vérité, c'est une grande ceinture ce soir. Ce n'est pas une petite ceinture comme ma femme aimait parfois, vous savez, pour faire beau là. Hein. Des fois, elle m'achète des ceintures chez Zara, elles sont jaunes, bleues, rouges, elles sont toutes petites. Ce n'est pas ça la ceinture de la vérité. C'est une vraie ceinture.
Amen.
Vous me suivez, mes sœurs, là, ce soir? Alléluia. Hein, je parle pour les sœurs, là, ce soir. Hein. Vous me suivez, mes sœurs? C'est une vraie ceinture.
Amen.
Est-ce que vous savez que la vérité, c'est une personne? Et la vérité, c'est avant tout la personne de Jésus. Dans Jean 14, verset 6, Jésus dira, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie.
Alléluia.
Mais la vérité, c'est également la parole de Dieu. Dans Jean 8, 31, il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Verset 32 ou 38, je crois. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira, ou elle vous rendra libre, dans notre traduction. C'est juste en bas, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité c'est une personne, mais la vérité c'est également la parole de Dieu. Et tous les jours je suis appelé à vivre dans la vérité de la parole de Dieu. Tous les jours je prends la vérité et lorsque Dieu me parle, lorsqu'il me montre quelque chose, je mets en pratique ce qu'il me montre. Et des croyants qui parfois, écoutez-moi bien ce soir, récitent cette prière. Le matin lorsqu'ils se lèvent, Seigneur, je mets la ceinture. Seigneur, je mets les chaussures. Seigneur, je mets le casque. Mon frère, ma soeur, si Satan t'attaque la nuit, comment tu fais? Faut-tu dire le jour et la nuit, la cuirasse et la ceinture? Donc pour l'avoir sur toi, sans forcément le répéter tous les jours, tu as juste besoin d'une chose, c'est vivre dans la vérité de l'évangile tous les jours. Tu vis dans la vérité de l'évangile. Quand tu lis quelque chose qui touche ton cœur, tu le mets en pratique. Tu vis dans la vérité, tu enlèves le mensonge, tu enlèves l'hypocrisie, tu enlèves le manque de droiture. Tu enlèves toutes ces choses qui t'empêchent d'avoir ta ceinture. Parce que sinon, tu vas partir au combat et ta cuirasse et ta tunique va flotter. Il te manquera quelque chose pour combattre contre l'ennemi. Il faut que tu vives dans la vérité. Regardez bien ce que dit également Paul dans Éphésiens 4, verset 25. Éphésiens 4, verset 25. Il dit, c'est pourquoi renoncer au mensonge. Que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Amen. Mon frère, ma soeur, mais même petit mensonge. C'est quelque chose qui t'empêche d'avoir ta ceinture sur toi. Il y a des chrétiens qui me disent, mais pasteur, je mens, mais c'est juste un demi-mensonge. C'est une demi-vérité. Mais pour Dieu, un demi-mensonge, c'est un mensonge complet. Renonce ce soir. Il n'a pas dit que le pasteur vient et qu'il te chasse un démon de mensonge. Mais il dit, tu renonces au mensonge ce soir. Tu dois renoncer tous les jours au mensonge. Et tu te tiens dans la vérité ce soir. Tu as le droit de dire amen. Amen. Vous savez, il y a une sœur qui m'a appelé il y a quelques jours en arrière. Elle m'a dit, pasteur, tu sais, on m'a cambriolé à la maison. Et on m'a pris des bijoux. On m'a pris de l'argent. On m'a pris des choses. Et les policiers me demandent de mentir sur le montant de ce qu'on m'a pris. Afin de pouvoir être remboursé dans la totalité de ce qu'on m'a volé. Pasteur, qu'est-ce que je fais? Je dis, écoute, tu as le choix. Ou bien de perdre la ceinture ou de la garder. Vous me suivez ce soir? Je décide de garder la ceinture de la vérité. Je décide de vivre dans la vérité. C'est un combat, c'est une lutte. Mais tous les jours, je me tiens dans la vérité. Je n'ai pas besoin de le répéter. Je vis dans la vérité et j'ai ma ceinture sur moi ce soir. Tu as le droit de dire amen. Hein? Deuxièmement, la cuirasse de la justice. Le légionnaire romain, il avait une cuirasse. Et cette cuirasse, elle servait à protéger l'organe majeur qui était le cœur. Quand vous voyez les films de l'époque romaine, on lançait des flèches. On tirait des flèches, on lançait des choses sur les soldats romains, et bien souvent la cuirasse protégeait l'organe vital qui était le cœur. Et cette cuirasse de la justice, mon frère, ma soeur, t'es appelé à la revêtir pour faire quoi? Pour protéger ton cœur. Proverbe 4, verset 23. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Est-ce que vous savez que Salomon va écrire ça? Il n'est pas encore né de nouveau. Il dit les choses d'une manière prophétique. Ça, c'est pour toi et c'est pour moi ce soir. Parce que ton cœur, c'est souvent ton esprit. Et dans ton esprit, dans ta nature nouvelle, là où Jésus vit en toi, il y a les sources de la vie ce soir. Amen. Est-ce que tu sais que le fruit de l'esprit vit en toi?
Amen.
Non, mais ça t'aise, ils n'y croient pas ce soir. Amen. Est-ce que tu sais que le fruit de l'esprit vit en toi?
Amen.
Certains prient pour le fruit de l'esprit, il est en toi. Mais garde ton cœur, garde le fruit, garde l'amour. Garde la joie, garde la paix. Il y a des chrétiens qui se font voler ces choses. Garde ta cuirasse, mon frère, ma soeur. Quand les flèches de l'ennemi viennent pour te voler ces choses, garde ton esprit, amen, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie.
Amen,
les gens qui me disent, mais comment ça se fait que t'es bien spirituellement, t'es riche, t'es en forme spirituellement? J'ai compris que tout est à l'intérieur de moi. À l'intérieur de moi, il y a un oasis. À l'intérieur de moi, il y a des fleuves d'eau vive, dit Jésus. Dans mon esprit, il les a mis. L'amour, le fruit, alléluia! Toutes les choses qui coulent, les arts de l'esprit sont en moi. Et je suis appelé à protéger ces choses comme un trésor que Jésus a mis à l'intérieur de moi. Et pour ça, il me faut une cuirasse. Et cette cuirasse, c'est la cuirasse de la justice. Alors comment elle fonctionne, cette cuirasse? Dans Romains 5, verset 1, il y a une bonne nouvelle. Paul va dire, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne dit pas, étant justifié dans l'avenir, mais il dit, étant justifié, comment? Par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Tu es déjà justifié si tu appartiens à Jésus ce soir.
Amen.
T'as le droit de dire amen aussi, hein?
Amen.
Il t'a justifié et t'as simplement besoin de comprendre que tu es devenu en Christ la justice de Dieu. Et quand tu es devenu la justice de Dieu, tu vis dans cette identité, dans cette justice. Et quand Satan t'envoie le péché, quand il t'envoie des choses pour enlever ce qu'il y a dans ton esprit, dans ton cœur, tu sais que non, toi t'es la justice de Dieu et tu cautionnes pas ces choses-là.
Amen.
Et tu restes dans ta position en Christ et à ce moment-là, toutes les choses qu'il met sur toi n'ont aucune influence et aucune autorité dans le nom de Jésus.
Amen.
T'as le droit de dire amen ce soir.
Amen.
Tu es justifié. Est-ce que tu sais que la justification, c'est le message qui a réveillé l'Europe au 16e siècle? Quand Luther, ce moine Augustin, quand Calvin à Genève ont commencé à étudier l'épître aux Romains et ont compris que les croyants étaient justifiés non pas par les indulgences, non pas par les œuvres, mais par la grâce et par la foi, le feu est venu dans tout le nord de l'Europe, l'Angleterre, la Suède, la Scandinavie entière, la Suisse, la Belgique, le Luxembourg, l'Angleterre, l'Allemagne, Tous ces pays ont été conquis par la réforme parce qu'un homme a compris qu'il était devenu en Christ la propriété de Dieu, la justice de Dieu.
Amen.
Est-ce que tu as compris ça ce soir? Quand tu as compris ça, je te garantis, mon frère, ma soeur, quand Satan vient te proposer des choses pour toucher ton cœur, tu le refuses dans le nom de Jésus. Lorsqu'il met de la pornographie, il met de l'alcool, il met des choses devant toi, tu dis non, je suis devenu la justice de Dieu. Je suis la propriété de Dieu en Jésus-Christ. Et je refuse ces choses au nom de Jésus. Mais si tu crois que tu es encore pécheur, si tu crois que tu es encore un tout petit chrétien qui constamment quémande la justice de Dieu, mon frère, ma soeur, tu vas te livrer au péché. Mais si tu comprends ce qu'il a fait de toi, ce que tu es devenu en Jésus, non pas dans le millénium, mais maintenant, alors ta vie est appelée à changer ce soir.
Alléluia.
Tu es et je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ.
Amen.
Alléluia. Je suis et tu es la justice de Dieu en Jésus.
Amen.
Dans 2 Corinthiens 5:21, il a toujours touché mon cœur ce verset. Il dit, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. En parlant de Jésus, non pas pécheur, mais péché. Dans son corps, il a porté le péché de l'humanité, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. Tu as le droit de dire amen si tu es croyant ce soir. Tu vis dans la justice, tu refuses le péché dans ta vie. Troisième arme, tu mets à tes pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Est-ce que vous savez que les soldats romains, ils avaient des bonnes chaussures? Les chaussures des soldats romains étaient en cuir. Il y avait des lanières pour tenir, et elle montait jusqu'à mi-mollet. C'est pas des chaussures de ma femme, encore une fois. Hein. Tu vas à la plage, elle met les sandales, hein, c'est pas ça. Hein. C'est des vraies chaussures. Et quand vous regardez l'histoire, les soldats romains sont allés à pied, en prenant le bateau, en passant par la Méditerranée, après jusqu'en Afrique du Nord. Ils sont montés en Grande-Bretagne, ils ont pris la Hongrie, ils ont pris l'Allemagne. Tous ces pays-là, en partant de Rome, ils sont allés à pied. Comment? Ils avaient des bonnes chaussures. Je te pose la question, enfant de Dieu, t'as des chaussures ce soir, ou t'as des chaussons? T'as des chaussures ou t'as des chaussons? Et les chrétiens, c'est pas des chaussures, c'est des chaussons qu'ils ont. Ils sont déjà à la retraite spirituelle. Ils attendent le retour du Seigneur. Et t'as pas des chaussons, t'as des chaussures ce soir. Il n'est pas parlé de chaussons. Et quand il parle de chaussures, il parle des chaussures qui s'appellent le zèle de l'évangile ce soir. Est-ce que tu as des chaussures? Ça fait 42 ans que mon père a mis ses chaussures. Il les a jamais enlevées. Tu les as enlevées ou tu les as ce soir? Et les chrétiens, quand je les vois vivre, je vous assure que c'est vrai, est-ce que ça touche mon cœur ce soir? Quand je les visite, ils sont à la retraite spirituelle. Ils témoignent jamais. Ils viennent jamais plus qu'au culte à l'église. Ils lisent la Bible de temps en temps. Ils prient de temps en temps. Ils témoignent de temps en temps. Ils donnent leur offrande au Seigneur seulement en début et en fin d'année. Mais tout le reste de l'année, ils sont en grève spirituelle. Mon frère, ma soeur, t'es pas appelé à revêtir ce soir des chaussons, mais des chaussures spirituelles. Et les chaussures me parlent de travailler, d'avancer, de conquérir, de prendre du terrain. C'est le zèle que donne l'évangile de paix, t'as le droit de dire amen. Dans Romains 12, verset 11, et la sœur Yvette a donné ce don spirituel. T'as l'air parlé des chaussures, elle a nommé ce verset. Je crois que ça parle à quelqu'un ce soir. C'est une clé pour ta vie. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Quand Paul parle d'être fervent d'esprit, ça veut dire quoi, fervent d'esprit? Ça veut dire que tu as l'esprit réveillé. Quand tu pries avec des chrétiens, l'esprit, le temps qu'il se réveille, le temps qu'il émerge, vous savez, c'est fini déjà. Vous connaissez déjà, vous savez, le sergent Garcia dans Zorro. Hein? Quand Zorro passe, le temps que sergent Garcia se réveille, comme ça, c'est fini, Zorro est parti. Hein? T'as des chrétiens, la bénédiction de Dieu, elle descend, elle vient. L'esprit de Dieu est là, mais ils sont pas fervents d'esprit. Ils prient jamais. Ils nourrissent jamais leur esprit. Il n'y a pas de zèle. Il n'y a pas de passion pour Dieu. Et le temps que Dieu touche, c'est fini. Jésus est déjà parti, il se réveille. C'est un peu comme la piscine de Bethesda. Le temps que le gars il y a, et c'était fini, non, j'étais déjà parti. Et t'en as qui sont comme ça, spirituellement, ils sont en train de dormir toute l'année. Mon frère, ma soeur, il te dit, aie du zèle ce soir. Aie du zèle dans quoi? Aie du zèle dans la prière, alléluia. Aie du zèle dans la lecture de la parole de Dieu. Aie du zèle dans le témoignage. Aie du zèle dans le service. Et du zèle dans la vie d'église. Dans le psaume 62, c'est David qui dira, le zèle de ta maison me dévore, alléluia. Est-ce que tu es zélé pour venir à l'église? Tu es zélé ou pas ce soir?
Amen.
C'est quand vous êtes zélé pour le Seigneur, vous êtes en feu spirituellement, vous êtes rempli du Saint-Esprit. Et quand tu es rempli de l'Esprit, mon frère, ma soeur, je te garantis que Satan ne peut rien contre toi.
Amen.
Et beaucoup cherchent des solutions dans le combat spirituel, et la solution c'est ça pour certains. Tu as juste besoin de te réveiller. C'est tout. Pas besoin de chasser un démon, tu as juste besoin de te réveiller ce soir. Tu as le droit de dire amen ce soir. Tu as juste besoin de te réveiller. Mon frère, ma soeur, Belzébuth, dans le grec, ça veut dire le prince des mouches. Et quelqu'un a dit un jour que dans le nord de la France, il y a des grands fours. Et les mouches se posent sur le four lorsque le four n'est pas embrasé. Mais lorsque le four est en feu, crois-moi, les mouches ne se posent pas dessus.
Alléluia.
Et les mouches, c'est les démons ce soir. Quand tu es en feu, ils ne se posent pas sur toi, les démons. Ils se posent sur l'autre. Pas sur moi, au nom de Jésus. T'as le droit de dire amen. Dis à ton voisin, sois en feu ce soir, sois en feu. Sois en feu, sois en feu. Alléluia, vas-y, dis-lui, sois en feu. Sois en feu dans le nom de Jésus. Alléluia, mets pas les chaussons. T'auras le temps de les mettre dans le ciel. Et même pas on louera le Seigneur dans le ciel. Mais mets tes chaussures ce soir. Une autre arme, le bouclier de la foi. Pour éteindre les traits enflammés du malin. Mon frère Vincent, le bouclier, là, le mot grec utilisé en bouclier, c'est le même mot qui est utilisé pour le mot porte. C'est exactement le même mot, il y a deux mots dans le grec. Et le mot utilisé là, c'est le même mot que pour le mot porte. Ça veut dire que le bouclier de la foi, écoute bien ce que je te dis, c'est pas un tout petit bouclier rond que tu vois dans les films, mais c'est un bouclier qui est comme une porte et qui te protège de la tête aux pieds. Ça veut dire que si l'ennemi il tient des traits enflammés sur toi, mon frère, ma soeur, si le bouclier de la foi tu l'as ce soir, il risque pas de te toucher. Tu es protégé de la tête aux pieds, mon frère, ma soeur.
Amen.
C'est quelque chose qui te recouvre toi, et même tes amis, ta famille, ceux qui vivent avec toi peuvent se réfugier. D'ailleurs, le bouclier de la foi, combien de fois mon père avait le bouclier? Je me suis réfugié derrière ce bouclier.
Amen.
Vous savez, un jour j'ai expliqué ce témoignage. J'étais dans une soirée, j'étais inconverti, et puis on avait bu, on avait fumé, c'était vraiment pas beau à boire. Et puis en sortant de la soirée, il y avait un ami à moi qui était complètement fou. Il faisait 1m90, 100 kg, c'était un boxeur. Il vient, il commence à castagner tout le monde. Et il lui prend une crise démoniaque, il castagne. Et puis mon gars me dit, Kadi, toi t'es le suivant. Ok. Puis il vient vers moi, j'ai déjà amené à l'église ce gars-là. Certains le connaissent dans ce lieu. Il est venu vers moi, il a voulu me mettre une castagne. Et au moment où il a voulu mettre la castagne, il a hurlé, ah, toi je peux pas. Toi, t'as un bouclier sur toi! Et il s'est paré en courant, il m'a plus jamais touché.
Alléluia.
Est-ce que tu crois qu'à ce moment-là, moi, un converti, j'avais le bouclier de la foi? Non, mais mon père l'avait pris pour moi.
Amen.
Dans la prière, la foi de mon père couvrait tous ses enfants.
Amen.
Et le bouclier de la foi, il marche pour les tiens ce soir.
Amen.
C'est comme une porte, alléluia. Quand tu le dresses entre toi et l'ennemi, il ne peut pas te toucher ce soir.
Amen.
Est-ce que tu sais que, mon frère, ma soeur, la foi, elle vient de ce qu'on entend, Romains 10, 17, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu.
Amen.
C'est les gens, pourquoi ils n'ont pas la foi? Je vous donne une solution ce soir. Ils n'ont pas la foi parce qu'ils se nourrissent de témoignages. Mais les témoignages n'aiment pas la foi. Ils écoutent des prédications d'orateurs qui vivent des grandes choses et ils croient qu'en écoutant, ça communique la foi. Non, c'est faux. Les témoignages ne communiquent pas la foi. Les témoignages stimulent ta foi, boostent ta foi, encouragent ta foi, te donnent envie de pratiquer la foi. Mais la foi pure et vraie, la foi véritable, celle qui vient de Dieu, elle est directement liée à la parole de Dieu.
Amen.
Romains 10, verset 17.
Amen.
Et pour posséder le bouclier de la foi, il faut que régulièrement tu mettes ton regard dans les Saintes Écritures. Il faut que régulièrement tu entendes sa parole à l'église. Il faut que régulièrement, tu plonges tes regards dans les Écritures. Et là, la foi est bien. Certains, j'ai à cœur vous dire par le Saint-Esprit que le bouclier, il va grandir au fur et à mesure.
Amen.
Certains, c'est un petit bouclier au début. Puis plus tu passes du temps dans la parole, plus le bouclier grandit.
Amen.
Plus tu connais la vérité, plus le bouclier grandit.
Amen.
Passe du temps ce soir, t'as le droit de dire amen.
Amen.
Passe du temps, ça éteint les traits enflammés du malin. Par exemple, l'ennemi t'attaque et une maladie qui vient. La maladie ne tape à la porte. Tu envoies Jésus lui répondre. Jésus est la parole, qu'est-ce que tu dis? Non, je suis guéri dans les meurtrissures de Jésus et la maladie est s'en va.
Amen.
Quand la pauvreté au niveau du travail, le manque vient, tape à ta porte, tu dis écoute ce qui est écrit. Mon Dieu pourvoira à mes besoins avec richesse et gloire en Jésus.
Amen.
Et tu prends le bouclier, tu éteins les traits enflammés du malin. Tu éteins ces choses au nom de Jésus. Mais régulièrement, tu es dans la foi. Vous savez, Jésus va dire aux disciples d'Emmaüs, lent à croire. Certains, vous êtes longs à croire, lent ce soir. Tu crois directement. Une attaque vient, tu crois la parole. Une attaque vient, tu confesses la parole. Tu es dans la foi et tu éteins les traits enflammés du mal. Tu as le droit de dire amen ce soir. Il y a une autre arme, comment elle s'appelle? Avant l'épée. Le casque du salut. Le casque, il protège mes pensées. Est-ce que vous savez que le combat spirituel se joue également dans le domaine des pensées ce soir? Il y a des pensées qui viennent. Les pensées sont là. Quelqu'un a dit un jour, tu ne peux pas empêcher aux oiseaux de voler au-dessus de ta tête, mais tu peux les empêcher de faire un nid. Ça veut dire que les pensées, il y en aura toujours toute ta vie. Des fois, je suis en train de louer Dieu, et d'un coup, boum, une pensée qui passe. J'analyse. Est-ce qu'elle vient de toi, Seigneur? Non, elle n'est pas toi, je la dégage au nom de Jésus. Ok? Par contre, tu es responsable de ne pas laisser rentrer la pensée. et de ne pas commencer à la cultiver. Mais la Bible parle des pensées. Et pour revêtir le casque du salut, premièrement, 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5. 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus. Amen. Avant de mettre le casque, tu renverses les forteresses. Tu renverses les raisonnements. Tu renverses les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et là, il parle dans le domaine des pensées. Tu analyses tes pensées. Une pensée de peur me vient, je la renverse au nom de Jésus. Une pensée de rejet me vient, je la renverse au nom de Jésus. Une pensée de manque me vient, je la renverse. Une pensée de maladie, t'as peur d'avoir le cancer, tu renverses au nom de Jésus. Une pensée de doute, une pensée de haine, une pensée impudique, tu la renverses au nom de Jésus. Il n'est pas dit que c'est Dieu qui la renverse, c'est toi qui la renverse. Tu prends, t'analyses et tu renverses au nom de Jésus. Et ensuite, tu disciplines tes pensées. Tu ramènes tes pensées captives à l'obéissance de Jésus. Il y a des gens qui lisent la Bible, ils pensent à autre chose. Les gens qui viennent à l'église, ils pensent à autre chose. Les gens qui prient, ils pensent à tout sauf au Seigneur. Et ça, c'est un problème de discipline dans le domaine des pensées. Il faut que tu ramènes tes pensées constamment captives à l'obéissance de Jésus. Une fois que tu as nettoyé, tu disciplines les pensées. Tu nettoies, tu disciplines les pensées. J'analyse, Seigneur, je pense à ce que je pense. Est-ce que cette pensée vient de toi? Non, même pas toi. Je la discipline, Seigneur. Je la ramène captive à l'obéissance de Jésus. Et une fois que tu as fait ça, après tu mets le casque du salut sur ta tête. C'est plus simple. Et ce casque du salut, c'est quoi? C'est l'espérance du salut. Tu remplis constamment tes pensées d'espérance. Tu sais que tu es sauvé. Tu sais que Jésus revient bientôt. Qui croit au retour du Seigneur ce soir? C'est que le Seigneur règne. Tu sais qu'il a inscrit ton nom dans le livre de vie. Et une fois que tu as nettoyé les pensées, constamment tu as le casque. Tu espères en lui. Tu penses au salut, tu penses à son retour. Et crois-moi, quand tu faisais, il n'y a plus de place pour la dépression. Il n'y a plus de place pour le découragement. Il n'y a plus de place pour l'angoisse. Tu es constamment en train de penser à l'espérance que tu as reçue le jour où tu as reçu Jésus comme sauveur et Seigneur. Et tu penses à ça toute la journée. Quand tu vois mon père, des fois il rigole tout seul. Tu dis, pourquoi il rigole tout seul? Mais il est en train de penser au ciel. Il pense à la Jérusalem céleste. Il pense à la maison que Dieu a préparée dans le ciel. Il y pense et il se réjouit. Réjouis-toi en espérance, dit la Bible. Amen. Réjouis-toi dans les choses que Dieu a en réserve pour toi. Arrête de déprimer dans les pensées. Tiens, qui déprime, il ressasse constamment le noir, le négatif. Il ressasse pas le casque sur ta tête. Prends le casque. Pense aux choses que Dieu a en réserve pour toi devant. Amen. Je rappelle que la foi, c'est maintenant, l'espérance, c'est demain. Pense à toutes les choses qu'il a en réserve pour toi. Pense à toutes les choses qui sont devant nous. Quand je pense à ces choses, dans mes pensées, il y a de la joie. Amen. Alléluia. Pose la question à ton voisin. Est-ce que dans tes pensées, il y a de la joie ce soir? Alléluia. Est-ce que dans tes pensées, il y a de la joie? Amen. Certains, c'est Hollywood dans la tête. Il y a tout qui passe. Il y a les films. Il y a le doute. Il y a l'incrédulité. Il y a l'inconfiance. Ils sont le film pour demain. Ça, c'est pas l'espérance. L'espérance, c'est des bonnes choses qu'il en réserve pour moi. Et constamment, je pense à ça tous les jours de ma vie. Alléluia. Vous êtes prêts pour la dernière arme? La dernière arme, c'est l'épée de l'esprit ce soir. Et l'épée de l'esprit, c'est une arme non pas défensive, bien qu'elle peut être défensive, mais surtout une arme qui est offensive. Et c'est la parole de Dieu. Pourquoi la Bible donne une arme offensive? Parce que parfois, tu es appelé à te défendre, mais parfois, tu es aussi appelé à attaquer l'ennemi. Il y a des saisons de ta vie où tu prends des coups, mais il y a des saisons où tu donnes des coups au diable. Et j'ai l'impression que 90% des chrétiens, ils sont dans la saison où ils prennent des coups. Pour que ça change. Tiens, ton voisin, j'espère qu'il ne parle pas de toi ce soir. J'espère qu'il ne parle pas de toi ce soir. Pasteur, je suis malade. Ok. Pasteur, je suis fatigué. Ok. Pasteur, je suis nié. Ok. Pasteur, je n'ai pas de travail. Ok. Pasteur, je souffre. Ok. Mais une saison seulement. Quand je pars dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne prends qu'un mal. Pas quand je plante une tente dans la vallée. Hein? Juste y passer, c'est tout. Hein? Ok. Mon frère, ma soeur, certains sont toujours dans la défensive. Il faut que tu passes à l'offensive ce soir. Il faut que tu commences à déloger l'ennemi dans ta vie là où il est. Tu le déloges dans ta famille, tu le déloges dans l'église, tu le déloges dans le monde, tu le déloges dans ton lieu de travail. Tu commences à le déloger comment? Par l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et comment elle marche, l'épée de l'esprit? C'est quand tu confesses et tu proclames la parole de Dieu. La parole, elle est dans ta bouche. Apocalypse 1, il va s'afficher. 1:16. Ça, c'est Jean qui voit Jésus glorifié dans le ciel, dans l'Apocalypse. Je rappelle qu'Apocalypse, c'est, en grec, c'est révélation. Il y a la révélation du ciel et des choses à venir. Et là, il dit en parlant de Jésus qu'il avait dans sa main droite cette étoile. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille Amen. Dans sa force. Amen. Amen. Il avait une épée dans sa bouche. Pas dans sa main, mais dans sa bouche. Jésus a une épée dans la bouche dans le ciel. Et il faut que tu aies l'épée dans ta bouche ce soir. Il faut que la parole de Christ soit dans ta bouche. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Et régulièrement, quand l'ennemi vient ou quand tu veux le déloger, tu proclames et tu déclares ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Vous savez, dans Matthieu 4 ou dans Luc 4, c'est comme ça que Jésus opère. Jésus nous montre le modèle, comment il a vaincu l'ennemi. Il a proclamé 3 fois, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Est-ce qu'il a pris les évangiles? Non, il n'était pas encore écrit. Qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris le Deutéronome. Il a pris un livre que les chrétiens aiment bien dans le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible. Tous les chrétiens aiment Lévitique dans ce lieu. Tous les chrétiens aiment Deutéronome. Des fois, les chrétiens me disent, pasteur, je lis que le Nouveau, mais jamais Deutéronome, jamais Lévitique. Ok, on n'y est plus, mais c'est aussi la parole de Dieu. Et Jésus prend ces livres-là que nous, on n'a pas trop envie de lire. Il les confesse 3 fois, et 3 fois, l'ennemi s'en va loin de lui. Toute la parole a autorité dans ta bouche. Toute la parole, lorsque c'est scripturaire, a autorité dans ta bouche. Tu déclares les choses. C'est conforme à la situation dans laquelle tu es. Tu n'es pas en train de dire ça, je prends ça, je prends pas. Tu prends, ton esprit te met dans le cœur. Tu déclares, tu déclares, tu déclares. Et c'est fini, il s'en va loin de toi. C'est comme ça que Jésus a fait. Et c'est comme ça, tu n'es pas en train de dire, Seigneur, aide-moi s'il te plaît. Je t'en supplie, au secours. C'est les psaumes de David. Dans le Nouveau Testament, tu déclares la parole de Dieu. Il est écrit. Et quand tu fais ça, il s'enfuit loin de toi. Ça, vous me suivez ce soir? Vous savez, le terme grec, là, qui est pris dans le Nouveau Testament pour le mot épée, pour le mot parole, c'est le mot rhéma, qui veut dire littéralement parole parlée. Tu as 2 mots, tu as logos et tu as rhéma. Et le terme là qui est utilisé pour parole dans Éphésiens 6, c'est rhéma. C'est la parole parlée, la parole proclamée. Pas la parole sur l'étagère, ni la parole dans le chevet, mais la parole dans ta bouche. Dans ta bouche. Dans ta bouche. Et pour faire ça, ça marche. Quand des fois je suis découragé, pas envie d'aller de l'avant, je sens fatigué, je sens la maladie qui rôde autour de moi. Je déclare, Seigneur, non, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Et quand je fais ça dans l'atmosphère spirituelle, il se passe quelque chose. Il y a un psaume qui dit que les anges obéissent à la voix de sa parole. Quand tu proclames la parole, les anges alors se mettent en action. Ils disent, waouh, il est en train de dire un truc qui est biblique. Hey, on se met en action. Mais quand tu dis, j'arriverai jamais, je ne peux pas, crois-moi, ils ne sont pas en action. Ils sont à l'arrêt. Ce soir, déclare et proclame la parole de Dieu. Tu as le droit de dire amen ce soir. Et pour terminer, j'aimerais dire, mon frère, ma soeur, que ce soir, Jésus a vaincu les dominations et les autorités. On peut le lire ensemble dans Colossiens 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Lisons-le ensemble. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Lisez-le encore une fois. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Tu combats un combat qui est déjà gagné. Tu sais, des fois, j'enregistre des matchs de foot. Et quand je rentre chez moi, je connais déjà le résultat, mais j'aime quand même bien regarder le match. Mais quand je sais que mon équipe a gagné, je suis cool. C'est un peu ça qu'il est en train de dire. Tu combats. Mais tu sais déjà que tu as remporté la victoire. C'est fait. La version parole vivante dit qu'il a pris les puissances, il les a mis derrière son char triomphal et il les a traînés derrière le char triomphal. Tu sais, les empereurs romains, lorsqu'ils rentraient dans Rome, ils prenaient les esclaves, les Gaulois, Vercingétorix, ceux qu'ils avaient pris en captivité, ils les mettaient derrière le char et ils rentraient à Rome. En symbole, on a conquis ce pays. C'est exactement ce que Jésus a fait à la croix. Il a pris les puissances, il les a attachées derrière son parole vivante, derrière son char triomphal. Il est passé et les cortèges de démons, d'autorité, de satanie, de malédiction, ce jour-là, ont défilé devant le ciel, devant les anges. Et les anges ont fait, ouais, on a gagné.
Alléluia.
Est-ce que tu as gagné ce soir?
Amen.
Est-ce que tu sais que tu as gagné ce soir? Dis-moi
amen.
Tu as gagné ce soir. Il y a des chrétiens qui ont toujours peur du diable, mais plus peur du diable. Il y a une femme qui priait, qui dit « Seigneur, j'ai peur du diable, Seigneur, j'ai peur du diable !» Et elle a eu une vision, elle a entendu derrière un buisson, un lion, qui faisait « et Jésus a dit « Vas-y, va voir le buisson, d'ailleurs, il y a le diable, va le voir !» Elle est allée, elle a vu une toute petite souris, qui avait un parlophone et qui faisait juste du bruit. Et Dieu lui a dit, c'est pas le lion. Il est comme un lion, mais le vrai lion, c'est Jésus, c'est le lion de la tribu de Judas. Il est comme un lion, Jésus lui a enlevé les dents à la croix. Alors n'aie pas peur du diable ce soir, n'aie plus peur du diable. Prends autorité sur lui et mets-le dehors dans le nom de Jésus. Je termine par un dernier verset. Je vais prendre ma Bible. Alors qu'on prépare nos cœurs avant de prier pour ceux qui ont des besoins. Je vais lire dans Apocalypse 2, verset 26. Prenez-le avec moi, Apocalypse 2, verset 26. Cet esprit a parlé à mon cœur à travers ce verset. Arrête de supplier Dieu de t'aider, prends les armes et lève-toi et marche.
Amen. Amen.
Apocalypse 2, verset 26. Trois fois, il est parlé dans l'Apocalypse aux églises de celui qui vaincra. Mais là, c'est pour l'église de Thyatire, il dit à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et il y a une promesse de règne pendant les 1000 ans de Jésus. Celui qui vaincra, il règnera avec moi. Je te pose la question, est-ce que tu as envie de régner sur la terre pendant 1000 ans avec Jésus? C'est qu'il a envie. Est-ce que tu as envie d'être là, le jour où on va régner? Certains seront peut-être là sauvés, mais ils ne régneront pas. C'est seulement ceux qui ont vaincu, ceux qui ont mis dehors l'ennemi, ceux qui ont marché triomphant, ils recevront lors du tribunal de Christ des récompenses. Et une des récompenses, c'est qu'ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Ils seront là, ils administreront les villes, la parabole des talents. À lui donner 10 villes, 5 villes, 2 villes, 3 villes. Moi, je veux y être ce jour-là. Mais pour y être, il faut être un vainqueur ce soir. Si t'es constamment opprimé, déprimé, comprimé, supprimé, t'es pas un vainqueur ce soir. Il faut que tu te lèves et tu commences à dire au nom de Jésus, je suis un vainqueur par Christ.